Voilà, c'est sur cette magnifique musique de Café Parados, album intitulé Rosa Blanca, que nous allons aborder le sujet qui nous préoccupe maintenant. Il s'agit du Festival international du film indépendant de l'île Cinémonde, 7e édition. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Ollier, qui est directeur de ce festival. Bonjour Monsieur Ollier.
Oui, bonjour.
Donc un festival qui revient comme chaque année au printemps, c'est bon signe?
Oui, tout à fait.
Donc qu'est-ce qui fleurit en ce moment dans le cinéma international et qu'est-ce que vous avez retenu de ce cinéma? Comment vous faites votre sélection?
En fait, il y a deux types de sélections qu'on essaie de proposer tous les ans, c'est-à-dire... Je dirais une partie de cinéma contemporain et une partie de cinéma de patrimoine. La ligne directrice est toujours d'essayer de trouver des films qu'on n'a pas l'habitude de voir, soit des films qui sont vraiment complètement inédits en France, soit des films qui ont un peu disparu, soit des auteurs qui sont très connus dans leur pays mais pas beaucoup par ici. Donc voilà, donc c'est essayer c'est vraiment la découverte, faire découvrir cinéma de différents horizons. C'est que du long métrage, essentiellement de la fiction et un petit peu de documentaire.
Donc vous avez de nombreux films au programme?
Oui, on a une cinquantaine de films.
Et qui seront répartis sur plusieurs salles?
Oui, donc c'est au Palais des Beaux-Arts, à l'Univers, et il y a une nuit spéciale à Libreterre.
Donc ce festival se clôturera le 17 avril, mais donc il a commencé?
Oui, il a commencé lundi, justement avec un hommage. C'est l'un des deux hommages qu'on rend cette année. Là, c'était un hommage à un cinéaste italien qui s'appelle Vittorio De Setta. On a présenté donc en ouverture Un homme à moitié avec Jacques Perrin, qui a pu intervenir par vidéo interposée qu'on avait enregistrée dans la journée. Et voilà, on a présenté des films des années 60 jusqu'à son dernier film qui était réalisé en 2006. C'est un grand, grand nom du cinéma documentaire et qui est très connu pour ses films documentaires, qui est moins connu pour son cinéma de fiction. Et c'est cette partie-là de son œuvre qu'on a présentée à Lille lundi et mardi.
Donc, comme je le disais, ce festival a lieu tous les ans au printemps. On en est à la 7e édition, c'est ça, hein? Mmh. Qu'est-ce qui change d'une édition à l'autre? Est-ce que vous voyez des événements ou des lieux ou des pays où le cinéma se développe ou régresse selon les années?
Régresse, non, parce qu'il y a En fait, nous, on essaye vraiment d'essayer à chaque fois d'aller découvrir comme ça des cinématographies que nous, on ne connaît pas. On n'est pas des spécialistes particuliers de telle ou telle région du monde. Personnellement, j'ai plus de connaissances et plus d'affinités avec le continent africain. Mais on essaye voilà, d'aller découvrir des films qui viennent d'Asie, d'Amérique latine, d'Amérique du Nord, enfin vraiment d'Europe également. Non, donc là, c'est vraiment... Nous, tous les ans, on avait travaillé sur le Liban, sur la Jamaïque, sur Cuba. Et là, cette année, on a travaillé notamment sur une région du monde qui est la Guinée-Conakry. En fait, en Afrique, il y a beaucoup de salles de cinéma qui disparaissent. Et paradoxalement, à Conakry, qui est une ville où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'électricité, il y a... 3-4 salles de cinéma qui fonctionnent très très bien sur groupe électrogène où le public est présent et vient le soir vraiment en masse. Récemment, il y a encore une projection, il y a eu 800 personnes, donc c'est assez exceptionnel en tout cas en Afrique subsaharienne. Et ça nous intéressait d'essayer de découvrir un cinéma qu'on ne connaissait pas du tout, et notamment un réalisateur qui s'appelle Moussa Kemoko Diakité. Et on ne connaissait pas ses œuvres, on ne le connaissait pas non plus, et en allant à Conakry, on a pu le rencontrer et on a commencé à rechercher parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas du tout de copie de ces films en Guinée. Et c'est le cas, en fait, je dirais, sur le cinéma patrimoine. Le cinéma contemporain, c'est encore autre chose, mais sur le cinéma patrimoine, et c'est pas que en Afrique, c'est dans de nombreux pays le cas, il n'y a pas, je dirais, de conservation du patrimoine national. C'est assez récent en France quand on regarde historiquement, aux États-Unis également, mais il y a plein de pays d'Asie, notamment le Cambodge ou le Vietnam, qui ne font pas du tout ce travail-là. Il y a des gens qui commencent à mettre en place ça. Alors, ce qu'on peut observer au fil, justement, vous me demandiez, au fil des années, c'est que du côté du patrimoine, il y a de plus en plus de pays qui commencent à prendre conscience de l'importance de leur patrimoine, de leur histoire, et qui essayent de mettre en place, justement, tout un travail de recherche des copies, des négatifs de leurs films. Ça, c'est un peu ce qu'on observe là depuis quelques années. Il y a une accélération dans ce sens. C'est très très long à mettre en place, ça coûte beaucoup d'argent. Mais je sais qu'il y a énormément de laboratoires en Europe et de cinémathèques qui ont envie de collaborer en tout cas avec ces différents pays. Donc ça, c'est plutôt positif.
Il y a un petit peu le principe du dépôt légal en France, hein.
Ben, en tout cas, souvent, c'est des films qui étaient en coproduction ou qui ont... Il n'y avait pas de laboratoire dans leur pays, donc ils envoyaient les films pour un développement en Europe, souvent en Allemagne, en France ou en Italie. Mais après, voilà, donc ces négatifs existent encore en Europe, dans ces laboratoires-là. Mais le temps a fait que les copies, pour des raisons diverses et variées en fonction des histoires de chaque pays... Il y a beaucoup, beaucoup de copies de ces films qui ont disparu. On a vu au Liban, par exemple, qu'il y avait beaucoup de films qui étaient envoyés, par exemple, en Égypte pour qu'on puisse faire des télécinémas et puis qu'ils puissent être présentés à la télévision. Et souvent, l'Égypte ne renvoyait pas les copies 35. Donc ça, c'est ce qu'on avait observé à Beyrouth. Les films, il y en avait... Les copies 35 existaient, mais elles ont disparu avec le temps. En Guinée, c'est la même chose. Et il y a plein de pays où non, c'est le même cas. Donc maintenant, le but, c'est de retrouver ces négatifs et refaire des tirages, quoi.
Donc, on va faire un petit peu la part des choses. Il y a les films qui relatent un peu, à un moment donné, une civilisation, un temps, justement, une période de l'histoire d'un pays. Puis il y a des films de fiction. Qu'est-ce qui émerge actuellement? Qu'est-ce que vous avez décelé comme petite pépite, par exemple?
Alors nous, on est très à l'écoute des films qui ont quand même un écho avec notre temps, qui ont un écho avec l'actualité proche ou historiquement pas très très éloigné. Là, par exemple, on a un film chinois qui a pour toile de fond les événements de la place Tiananmen, donc c'est quand même il y a une petite vingtaine d'années, donc on est encore très très proche. Il y a un film de Marion Hensel qui est pareil qui évoque tout au long du film des essais nucléaires. Donc voilà, donc c'est des choses qui nous parle là en ce moment dans l'actualité. Donc on essaie voilà d'être à l'écoute. Il y a un film sur le mouvement Takwar Kor, qui est le mouvement punk musulman. Là aussi, c'est une autre manière de traiter la révolte récente depuis le mois de décembre dans certains pays du monde arabe. Donc voilà, donc on essaye d'être vraiment à l'écoute du monde et d'essayer de privilégier des films qui, d'une manière ou d'une autre, sont inscrits dans une époque qui est là, 2011, et c'est l'une des lignes directrices, et aussi d'essayer de proposer un panel de films qui peuvent toucher les uns et les autres. Je pense pas qu'en regardant, si on regarde toute la programmation, on peut dire la sélection de ce festival elle est comme ci ou comme ça. On essaye vraiment de pouvoir proposer différentes façons de faire du cinéma. Et voilà.
Alors Dominique Ollier, nous sommes mercredi et le festival se poursuit. Qu'est-ce qu'on peut voir à partir d'aujourd'hui?
Ce soir, en fait, il y a deux soirées. Il y a une soirée qui est à l'Univers, en partenariat avec Colores Latino Americanos, qui est autour de la lutte zapatiste. On va voir deux films sur la lutte avec des anciens qui ont participé à cette lutte. Et puis, on va voir de nos jours comment ça se passe. Nous, ça fait quelques années qu'on travaille justement sur des périodes de l'histoire qui ont marqué certaines indépendances. L'année dernière, c'était sur l'Afrique subsaharienne. L'année prochaine, on sera sur une autre région qui sera là, en l'occurrence, l'Algérie et la Tunisie. Mais cette année, on voulait marquer avec la lutte zapatiste. Et à côté de ça, sur les Beaux-Arts, on sera sur un autre des sept films de la compétition, qui est le film Donoma de Jean Carénard, qui est un cinéaste haïtien qui vit depuis de nombreuses années maintenant en France, et qui a fait un film qui avait été présenté à Cannes. On l'avait découvert à Cannes en mai dernier, il faisait partie de la sélection Acide, Et c'est un film qui a été fait vraiment avec très très peu de moyens. Il a une énergie incroyable. Et on est vraiment très heureux de pouvoir le présenter ici. Il avait eu une très très belle presse, des pages entières dans les Inrock ou dans l'IB. Et puis après, malheureusement, pas de distributeurs qui ont accompagné le film. Peut-être le film est un peu trop long, alors que vraiment, quand on le visionne, il y a un plaisir fou du début à la fin. Donc voilà, donc c'est un peu des surprises. Le réalisateur sera présent ainsi que l'une des actrices principales. Et puis sinon, demain, on a aussi un film hongrois qu'on va pouvoir présenter demain, qui s'appelle Vespa. Là, on parlait tout à l'heure, toujours avec un lien avec l'actualité proche. On va suivre un petit Rome qui a gagné un concours et qui doit aller chercher sa Vespa. Et puis donc voilà, on va suivre son parcours jusqu'à l'obtention de ce prix. Et on va voir là également en toile de fond la violence que peuvent subir en Hongrie, mais c'est pas que en Hongrie, la communauté rome. Et puis il y aura donc le film dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Si on revient tout à fait sur ce sujet.
Oui, bien sûr.
Moi, j'ai vécu un petit peu ça. C'était il y a une dizaine d'années, à Budapest, justement, où j'étais au festival, Sziget Festival.
Ouais.
D'accord. Et là, effectivement, il y avait aussi des associations qui présentaient leur combat, justement, contre cet intégrisme, on va dire,
oui, tout à fait.
Qui excluait les Roms d'une manière générale. Hein. Et j'avais été choqué de ça. Enfin, j'avais imaginé qu'en France, les Roms étaient relativement pas très bien considérés, mais là-bas, c'est vraiment un racisme très fort,
oui,
comme un peu ici le racisme anti-arabe, moins aussi important. Et finalement, c'est arrivé en France. Comment vous voyez les choses?
Non, c'est arrivé, par nos dirigeants, quoi, qui ont, je pense, des idées extrêmes. On va toujours chercher, c'est la facilité, la faute de l'autre. C'est un grand classique, hein, de toute façon. Donc, ils ratissent très très large. Donc, les Roms en font partie, comme d'autres communautés.
Donc, vos films, souvent, ont une vocation à faire réfléchir les gens,
oui,
à se poser des questions sur la société.
Très modestement, on essaye, avec la plupart des films, de pouvoir ouvrir, je dis encore une fois modestement, certaines consciences, en tout cas. Et en tout cas, de pouvoir traiter certains sujets d'une autre manière et de pouvoir que les films permettent après aux gens, quand ils suivront l'actualité, telle ou telle actualité, de pouvoir avoir un autre regard, une autre analyse sur... sur ce qui se passe. Là, par exemple, hier, on a présenté un film qui s'appelle Lettres du Sahara, qui suit justement le parcours de deux clandestins sénégalais qui vont aller en Italie, puis après toute la violence qu'on peut retrouver en Italie contre toute une partie de l'immigration africaine. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet de mettre des visages, des histoires sur des chiffres qu'on nous donne tout au long de l'année. Il y a eu tant de clandestins qui sont morts et tout ça. Il n'y a jamais de visage, il n'y a jamais rien. On ne connaît pas leur histoire, on ne connaît pas leur motivation. Et là, la fiction permet justement de pouvoir apporter des images et des histoires qui après vont rester en nous. Et on ne verra pas l'actualité de la même manière. En tout cas, c'est notre objectif.
Alors Dominique Ollier, je vous ai un petit peu interrompu sur la présentation donc des films qui seront présentés prochainement. Je vous laisse poursuivre, bien sûr.
Donc il y a un autre film qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure, qui est Takwarkor. Takwarkor, c'est un mouvement qu'on retrouve au Pakistan, qu'on retrouve en Iran, qui est réel sur le punk musulman. On avait vu plusieurs documentaires, et là c'est la première fiction qui est faite sur le sujet. Ça se passe à New York. Et voilà, ça permet vraiment de découvrir un mouvement qui est pas très connu. La plupart des gens à qui on a parlé de ce film, qu'est-ce que tu nous racontes, le punk musulman, il y a deux choses comme ça qui vont pas obligatoirement ensemble, et pourquoi pas, pourquoi une religion pourrait pas aller avec un autre mouvement musical, et qui est plus que musical, qui est un mouvement de révolte aussi. Donc voilà, ça c'est un film qui est très intéressant. Le réalisateur sera présent également. Et on a un film qui nous vient également du Québec, qui s'appelle Route 132, qui va suivre en fait le parcours d'un homme qui vient de perdre son fils et qui a décidé voilà, il a besoin de prendre l'air, il va partir avec un ami qu'il n'a pas vu depuis très longtemps, et ça va être un genre de road movie comme ça, sur les routes, sur cette route 132 au Québec, et qui va être fait de rencontres, de petits larcins, en fait, ça va être bêtise sur bêtise, mais avec beaucoup, beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse, et c'est ce genre de fuite en avant, mais avec des acteurs vraiment exceptionnels. On a eu l'occasion d'avoir l'acteur principal, François Papineau, il y a 2 ans, avec le film qui avait remporté le premier prix, pour ceux qui connaissent, qui était Papa la chasse au Lagopède. Et puis sinon, on a donc le film chinois dont on a parlé, le film hongrois. Je suis en train de voir si... Non, je pense que là, on a fait à peu près le tour des films de la sélection, avec Donoma également.
On peut peut-être dire que ce festival, cette année, est parrainé par Patrick Bouchité. Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte, hein?
En fait, tous les ans, on a toujours un parrain comme ça qui nous suit, qui est une figure dont on se sent proche, pour différentes raisons. On a eu des gens comme Élodie Bouchèze la première année, Benoît Delépine, Albert Dupontel ou Jean-Marc Barr. Et cette année, ça s'est fait par une rencontre, un hasard. Il était venu, je crois, en vacances au Sénégal, et l'une des fondatrices du festival vit à Saint-Louis du Sénégal, qui est une ville qui est dans le nord du Sénégal, jumelé avec l'île depuis nombreuses années. Et voilà, il s'est passé quelque chose lors de ces quelques jours de rencontre. Et après, on l'a contacté pour lui proposer pas d'être le parrain du festival, mais d'être le parrain des réalisateurs, des réalisatrices de la sélection officielle. Et je dois avouer que c'est quelqu'un qui nous a agréablement surpris. Car c'est le premier de nos parrains qui a voulu voir l'ensemble des films de la sélection officielle. Donc pendant, là ça fait 15 jours qu'il visionne tous les films. Il arrivera donc samedi, rencontrer d'abord les réalisateurs pour pouvoir échanger avec eux sur les films qu'il a pu découvrir. Et après le soir, il remettra donc le prix du public, le papillon d'argent, parce que la compétition pour nous n'a pas de bon sens, mais l'avis du public nous intéresse. C'est pour ça que le seul jury qui est important à nos yeux, c'est le public. Donc c'est le public qui va voter.
Ben voilà, et on lui donne rendez-vous, bien sûr, tout au long de ce festival qui se conclut donc le 17 avril, le Festival international du film indépendant, dit le FIFI Lille.
Voilà, tout à fait.
Merci.
Une dernière petite chose à rajouter, par rapport à l'hommage à Moussa Diakité. Parmi les films qu'on a retrouvés, il y a un film absolument exceptionnel qui s'appelle Fidel Castro, un voyage en Guinée. C'est des images qu'on n'a jamais vues et qui seront présentées demain à 19h à l'Univers. Et c'est le premier voyage en fait de Fidel Castro en Afrique. Il y avait une intervention assez importante de Cuba à l'époque, avec notamment le Che qui était venu dans différents pays, notamment le Congo. Et là donc c'est des images vraiment totalement inédites qu'on a retrouvées aux archives du film d'Allemagne.
Mais super, merci donc de nous avoir présenté ce festival, et rendez-vous au public dans les 3 lieux que vous venez de mentionner. Ce soir, on rappelle les lieux.
Donc ce soir, c'est 21h d'Onoma, l'un des 7 films de la sélection officielle, en présence du réalisateur et de l'actrice principale. Ou alors à l'Univers pour la soirée Une lutte mexicaine sur la lutte des zapatistes à partir de 19h.
Merci Dominique Ollier.
Un grand merci.